Le retour d'Alexandra Duboucheron pour la revue de presse. Alexandra, un visage à la une ce matin.
Barbe grise, sourire discret, un air jovial qui se dessine derrière des lunettes rondes. Le père Olivier Maire avait 60 ans. Originaire de la région de Besançon, après de longues années en Afrique et à Rome, il était depuis une dizaine d'années supérieur provincial de la communauté religieuse des Montfortins à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Passionné d'orgue et d'histoire religieuse, il devait justement commenter une visite touristique aujourd'hui dans sa commune. Mais hier, il a été assassiné. En quelques heures, son visage a fait le tour de France. Il s'affiche en une de Presse Océan ce matin. L'émotion, titre le journal. L'émoi, c'est la une de Courrier de l'Ouest. Stupeur et colère, écrit de son côté le Parisien. Colère parce que le principal suspect est un homme que le père Olivier avait accepté d'héberger dans sa communauté. Un Rwandais en situation irrégulière, principal suspect de l'incendie de la cathédrale de Nantes l'an dernier. C'est l'histoire d'un prêtre victime de sa générosité. Le pardon trahi, résume Jean-Michel Salvador dans l'édito du Parisien. Mais la religion cède le pas à la polémique. Aussitôt connue, poursuit l'éditorialiste, cette affaire a rallumé la vie partisane qui avait pris ses quartiers d'été. La droite et l'extrême droite accusent et demandent des comptes. Les justifications hier du ministre de l'Intérieur n'y ont rien fait. Jamais cette tragédie n'aurait dû se produire, déplore Yves Tréhard dans l'édito du Figaro, qui pointe le laxisme administratif et le pointillisme kafkaïen de la justice, une faillite française. Pourtant, la situation est complexe, tempère Jefferson Desport qui fait pour Sud-Ouest le point sur l'enquête. Emmanuel Abayi-Sanga avait bien vu ses demandes d'asile refusées, mais il attendait une ultime décision du tribunal administratif de Nantes. Et puis il y a eu l'incendie de la cathédrale, placée en détention provisoire pendant 10 mois et laissée libre sous contrôle judiciaire strict. Il était devenu inexpulsable pour garantir son procès. Reste des zones d'ombre, note le journaliste. En juin, il voulait quitter la communauté des Montfortins. Il a été placé près d'un mois en hôpital psychiatrique. Il en est sorti le 29 juillet. Alors que s'est-il passé depuis? Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à commettre l'irréparable? L'enquête est en cours. Et puis Ouest-France nous raconte ce matin une commune, Saint-Laurent-sur-Sèvre, d'ordinaire baignée dans la quiétude et rythmée par les sons de cloches de la basilique et qui se réveille dans l'effroi, ambiance pesante dans le cœur du bourg. C'était un homme d'une grande bonté et d'une grande spiritualité, confie un proche du père Olivier. Il était apprécié de tous. C'est incompréhensible, assure le maire.
Et vous nous racontez une autre ambiance ce matin, une ambiance apocalyptique.
Oui, on vient d'en parler sur France Inter, c'est l'humanité face à son destin. Vos journaux rivalisent d'imagination pour vous faire passer le message envoyé par le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Le GIEC, qui a publié le premier volet de son rapport hier, le réchauffement climatique dépassera probablement 1,5 degré 10 ans plus tôt que prévu. Et avec lui, son cortège de catastrophes extrêmes, résume Dominique Greiner dans l'édito de La Croix. Climat au pied du mur, titre le journal dont la une est jaune feu ce matin. Photo des flammes qui ravagent depuis des semaines l'île d'Eubé en Grèce. Au premier plan, un homme, un riverain qui aide les pompiers torse nu, les mains noircies. Il lève les bras comme impuissant. Un immense brasier, c'est aussi la une de l'humanité avec ce mot irréversible. Point d'interrogation. Climat au bord du gouffre, titre Libération sur la photo d'un homme seul marchant vers une route brisée par les intempéries du mois dernier en Allemagne. Et si rien ne change, le journal propose de se projeter en 2050 sur la base de ces données. 2050, la fiction dépassée par la réalité. On est transporté par exemple au cœur de la forêt suédoise, ravagée par des incendies, transformée par le changement climatique, victime de la sécheresse et des insectes. Ou encore aux Pays-Bas, à Rotterdam, où les habitants en 2050 se sont habitués aux ordres d'évacuation vers des refuges anti-inondation. À l'image de Libé, vos journaux se montrent le plus pédagogue possible et les services infographiés n'ont pas chômé pour le climat. Schémas et graphiques s'enchaînent pour mieux comprendre des chiffres et des concepts pas toujours lisibles. Cela dit, même quand on a bien compris les enjeux, n'y a-t-il pas un risque de découragement? Long article sur ce sujet à lire dans l'Opinion aujourd'hui, l'Opinion qui s'intéresse sur la façon de travailler du GIEC, car ce premier volet est consacré aux différents scénarios d'évolution des températures, mais il ne propose pas de solution. Ce sera l'objet du troisième volet au printemps prochain. Entre-temps, le deuxième volet étudiera les impacts pour la population. Le récit catastrophiste pousse les populations et les politiques vers un certain aquabonisme, s'alarme plusieurs chercheurs interrogés par le journal. Il plaide donc pour une seule publication d'un bloc, car, explique un ancien du GIEC, le plus urgent, c'est de savoir comment nous pouvons parvenir le plus rapidement possible à un monde neutre en carbone. Sinon, on déconnecte le climat climat de la politique.
La lutte contre le réchauffement climatique, David contre Goliath.
Oui, Goliath d'abord, mais que peut dire le GIEC face au rouleau compresseur des lobbies? Je vous invite à lire l'édition d'août du Monde diplomatique, toujours en kiosque. Plongée effrayante dans le monde des lobbies publicitaires contre la loi climat en France, la journaliste Marie Bénilde a assisté par exemple à une table ronde organisée par l'Union des entreprises de conseil et d'achat médias à ceux qui voudraient restreindre la publicité sur les produits les plus polluants comme les SUV qui représentent aujourd'hui 63% des publicités automobiles dans la presse et la deuxième source de croissance des effets de gaz à effet de serre dans le monde. Eh bien à cela, il ne faut pas interdire comme on peut le faire en Corée du Nord. Vous allez paupériser encore un peu plus les médias ultra fragilisés qui permettent de donner la gratuité à des gens qui n'ont pas les moyens, rétorque un responsable. Autre intervention encore plus éloquente, celle de Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo et retranscrite par Marie Bénilde. Les écologistes, dit-il, ne font que reverdir les discours soviétiques. Ils proposent un monde gris, sans consommation populaire, voire inhumain. L'étape d'après, dit-il, c'est d'interdire les films et les livres. La publicité ne doit pas s'engager dans une logique décroissante. Fin de citation. Et puis il y a David, ça pourrait être Mélanie, 41 ans, qui a quitté son emploi d'infirmière pour emprunter 63 000 euros et qui a ouvert une épicerie en vrac. Elle témoigne sur le site internet de l'Obs aujourd'hui, deuxième partie d'une série d'été consacrée aux reconvertis du Covid. L'hebdo s'intéresse à ceux pour qui la crise sanitaire a été un déclic. Le télétravail ou le chômage partiel imposé ont été des accélérateurs de réflexion pour peaufiner des projets de reconversion professionnelle.
Merci bien Alexandra Dubroucheron pour la revue de presse.
France Inter.